la part du Seigneur, puis de la part des églises aussi en région parisienne, au moins deux, celle de Saint-Denis, puis celle de Sarcelles, hein, où Timothée Bixby, que vous connaissez bien, et le pasteur. Voilà, content de vous revoir, de revoir tous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai été ici, hein, depuis 37 ans d'Ilala, donc je lui fais confiance. Hein. Il est habitué aux chiffres et aux mathématiques. Mais c'est une joie pour moi de vous retrouver. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos prières, parce que beaucoup d'entre vous avez prié pour nous, pour moi et ma femme, et pendant cette période du Covid-19, c'est vrai que j'ai été vraiment atteint. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il a écouté vos prières et les nôtres, et puis il nous a ramenés. Donc on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour cela. Nous avons quatre enfants en tout, et quatre petits-enfants. Donc nous avons notre fils qui habite dans la région bordelaise, qui habite à Aisin. Et donc ils ont deux enfants, et puis notre fille qui habite dans le sud-est, à côté d'Orange, et qui a aussi deux enfants, pardon. Et donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et puis, nous venons d'avoir notre avant-dernier, Mathias, qui vient de terminer ses études. Il est donc kiné depuis vendredi. Et donc, il a bouclé. Et puis, Ketsia, qui faisait le PACES en médecine, elle a été aussi prise, elle a été aussi acceptée. Donc, elle a passé son concours, elle va commencer ses études de médecine. Donc, c'est notre dernière. Donc, on est vraiment content que le Seigneur les ait bénis. Et puis, comme cela... Donc c'est une joie pour nous de voir ce que le Seigneur fait dans tous les domaines. Donc, que sa main soit, que son nom soit béni. Et on discutait avec notre fille et puis elle disait « Dieu est bon ». J'ai dit « Oui, c'est vrai ». J'ai dit « Même si les résultats n'avaient pas été comme cela, Dieu demeure bon. Il est bon, hein. C'est pas parce que ces choses sont faites qu'il est bon. Il est bon, il fait, il accorde, parfois il accorde pas. Comme Job le disait, mais l'Éternel est bon et que son nom soit béni. Alors, je voudrais partager avec vous le passage qui est lu. En tout cas, pas tout le passage, mais quelques versets. Donc, de Philippiens, Philippiens au chapitre 1. Et puis, c'est surtout les versets 12. À partir du verset 12, ce que je voudrais partager avec vous. Et je vais le relire. Philippiens. Chapitre 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul écrit cette lettre depuis la prison à Rome. Il adresse à l'église de Philippe, une église avec laquelle il a vraiment de forts liens. Quand on lit cette lettre, on voit vraiment le cœur de Paul pour cette église et le cœur de cette église aussi pour Paul. Et il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Alors, ce que Paul dit ici, on voit d'emblée que probablement les Philippiens inquiet pour sa situation en prison. On peut imaginer, quand on sait que quelqu'un est à l'hôpital ou qu'il est en prison ou quelque chose, on peut se demander comment est-ce que cette personne va, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle est bien nourrie, est-ce que tout se passe bien. Donc l'Église avait certainement des inquiétudes concernant l'apôtre Paul. Il leur écrit cette lettre en partie pour les rassurer de sa situation et puis pour les remercier aussi d'un don que l'Église de Philippe leur a fait. Mais dans ces deux versets ici, je voudrais considérer une chose, c'est que comment l'apôtre Paul considère les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve, ou par lesquelles il est passé jusqu'à ce niveau-là. Et le titre du message ce matin, c'est « Une vision juste des circonstances difficiles ». Une vision juste des circonstances difficile. Alors, comment est-ce que nous parlons de nos circonstances par lesquelles nous passons, et particulièrement celles qui sont difficiles ou parfois celles qui sont contraignantes? Que voulons-nous que les personnes qui sont autour de nous sachent de nos souffrances, ou qu'est-ce que nous leur transmettons? à travers nos difficultés. Il me semble que, naturellement, ce que nous cherchons en premier lieu, c'est de focaliser l'attention sur la difficulté elle-même, sur la situation que nous vivons, sur l'adversité à laquelle nous devons faire face. Et on transmet souvent notre peine et notre douleur ici. Et donc lorsque les difficultés surviennent et que la souffrance nous atteint, il arrive vraiment qu'on soit parfois désemparé, qu'il y a foule de questions qui viennent à notre esprit, des pourquoi, des comment, pourquoi est-ce que Dieu permet cela, pourquoi est-ce que ça dure si longtemps, est-ce que j'ai fait quelque chose. Et parfois, on est tenté même de douter, je crois, de la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est bon avec tout ce qui m'arrive? Et d'autres fois, on se met parfois en colère même, hein, car on estime injuste ce qui nous arrive. Et encore plus injuste, le fait que Dieu ne nous en délivre pas, alors qu'il nous semble que nous le servons. Donc nous sommes ses enfants, disons-nous, après tout. Hein. Et des gens disent souvent cela, hein, je suis l'enfant de Dieu, il doit intervenir, il doit faire quelque chose. Et donc nos réactions face aux difficultés, je crois, dépendent vraiment de la compréhension que nous avons du but des difficultés ou bien du but de la souffrance dans notre vie, de la compréhension que l'on a de la bonté de Dieu et aussi de sa souveraineté. Et donc les chrétiens de Philippe, je le disais, inquiets pour Paul, ils se font des idées sur sa situation, mais Paul va les encourager, et je le vois à travers cette lettre, mais aussi particulièrement avec ces deux versets, à orienter leurs pensées et à leur transmettre une idée, une vision juste des circonstances difficiles. Alors je voudrais considérer premièrement que Paul montre ici que Dieu utilise les circonstances pour montrer sa providence. Dieu utilise les circonstances pour montrer sa providence. J'ai cherché dans le dictionnaire le mot providence et nous pouvons lire ceci, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Et Paul montre, je crois ici, aux Philippiens que Dieu utilise ces circonstances difficiles par lesquelles il est passé pour montrer sa providence. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que ce sont de bonnes choses? Est-ce que ce sont de mauvaises choses? Et si on lit le livre des Actes, on peut voir qu'à la fin de son troisième voyage missionnaire, Paul quitte la Grèce et retourne à Jérusalem. Et puis, et jusque-là, on peut savoir qu'il n'a pas eu la vie toujours très facile. Il avait dit aux Corinthiens, il avait exprimé aux Corinthiens la dureté, la souffrance qu'il connaissait dans sa vie. Et puis sur le trajet, en allant à Jérusalem, il apprend qu'il va être lié par l'Esprit, il dit, acte 20, verset 22-23, il dit, maintenant voici, c'est lié par l'Esprit que je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc, vous voyez, c'est intéressant, il dit, c'est pas ce qui va lui arriver. Et quand il arrive à Philippe, il dit, ce qui m'est arrivé, je veux que vous sachiez que, voilà, que vous orientez vos pensées droitement là-dessus. Et il dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, arrivé à Jérusalem, il est arrêté dans le temple au bout de 7 jours. Il est traîné à l'extérieur pour être tué. Il est sauvé vraiment in extremis par des soldats romains. Le lendemain, il doit être enlevé en hâte pour être mené devant le Sanhédrin. Et puis, 40 personnes montent un complot pour le tuer. Alors, ce complot, il est déjoué hein, en faisant transférer Paul à Césarée. Et puis, Paul demeure quasiment en prison 2 ans à Césarée. Acte 24, verset 27, vous pouvez voir cela. Donc, il a ensuite conduit à Rome sur sa propre demande. Et puis, le voyage à Rome, eh bien, il a été périlleux parce qu'il est sur un bateau qui fait naufrage. Il arrive donc enchaîné à Rome, il est emprisonné dans une maison, et ça fait 2 ans qu'il est en prison quand il écrit cette lettre à peu près, Et il est enchaîné à un soldat, il attend son jugement et il ne sait absolument pas quelle sera l'issue de sa situation. Philippiens 2, 23, il montre que voilà, il ne sait pas encore quand les choses ne sont pas tout à fait claires. Et donc, on peut dire que ce qui lui est arrivé, ce ne sont pas des choses faciles. Ce n'est pas, en tout cas, ce qu'il avait planifié. Ce ne sont pas des choses faciles, ce sont des choses plutôt très difficiles. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est comment l'apôtre Paul oriente la pensée des Philippiens sur l'ensemble de sa situation jusqu'à sa captivité en Rome. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il les force, si vous voulez, à abandonner une manière naturelle de voir les choses et d'interpréter les circonstances pour se tourner vers une manière divine d'observer les choses, la manière de Dieu, c'est-à-dire de considérer les choses du point de vue de la providence de Dieu. Il montre donc que Dieu utilise les circonstances difficiles pour montrer sa providence. Il nous est facile d'admettre, je crois, les choses heureuses comme venant de Dieu. Quand il y a de bonnes choses, enfin, que nous considérons comme des choses heureuses, c'est facile de les attribuer à Dieu. Mais il est plus difficile d'admettre ce qui nous arrive et que nous considérons comme malheureuses, de les attribuer à Dieu et d'être conduit par la providence de Dieu, ici. Et pourtant, soit bien, soit le mal, nous pouvons croire que Dieu a son contrôle sur toutes ces choses et que tout est le fruit de sa providence. Il y a quelques semaines, au début du déconfinement, j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste de M6 qui voulait faire une émission télévisée sur les églises évangéliques, les églises en tout cas, et l'épidémie. Et il voulait savoir comment nous voyons les choses. Est-ce que nous disons que cela vient de Dieu, que c'est un jugement de Dieu, etc. Quel lien on fait en tout cas entre l'épidémie et puis Dieu? Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises là-dessus? Et donc il voulait faire un reportage télévisé là-dessus. Bon, nous n'avons pas accepté parce que on sait comment ça se passe. On filme, on découpe, on fait un montage et puis ce qui est transmis, c'est pas ce que vous avez voulu transmettre. D'ailleurs, l'émission qui est passée après a montré que bon, l'Église qui avait plus ou moins accepté, c'était un petit peu déformé. Mais en tout cas, c'est intéressant je trouve que c'est intéressant de considérer cette question. Quel lien il y a entre l'épidémie et puis Dieu? Comment est-ce que les chrétiens voient cela du point de vue de la providence de Dieu? Alors, je lui ai parlé de la souveraineté de Dieu. Je lui ai dit que si nous croyons que Dieu est souverain, nous ne pouvons pas croire que ces choses sont en dehors de son plan. Et donc, oui, nous croyons que le péché a amené les situations que nous vivons aujourd'hui, mais que Dieu a prévu. J'ai prêché l'évangile, vraiment, c'était une occasion pour moi de le faire, mais c'était surtout une occasion de montrer que nous croyons vraiment que tout est sous le contrôle de Dieu. Choses bonnes ou mauvaises sont sur le contrôle de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains quand il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » ou dans l'Ancien Testament, le prophète dit de la part de Dieu qu'il fait les choses qui sont bonnes et qu'il appelle aussi la calamité. Et donc Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Et je pense que Paul guide ici la pensée des Philippiens ici pour leur montrer que Dieu a contrôlé tout ce qui lui est arrivé. Les circonstances, qu'elles soient difficiles ou qu'elles soient faciles, sont des instruments que Dieu ordonne à sa guise. Dans notre église, nous sommes en train d'apprendre un catéchisme, peut-être ici aussi, je crois. Peut-être les jeunes, je ne sais plus.
On a commencé, on a arrêté.
Arrêté, d'accord. Donc on a fait un catéchisme. Et l'une des questions, la question, je crois que c'est la question 9, c'est qui est Dieu le Père? Et la réponse, c'est Dieu le Père est le créateur du ciel et de la terre, qu'il gouverne, d'accord, qu'il maintient en existence plutôt, et qu'il gouverne de façon à faire répondre toutes choses à sa volonté. Et donc tout ce qui se passe, Dieu le fait répondre à sa volonté. Donc le bonheur du croyant ne sera pas dans la nature des circonstances, mais dans la confiance que les circonstances sont dans les mains de Dieu et que Dieu, les circonstances, bonnes ou mauvaises, sont les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et donc, Paul attribue vraiment ce qui est arrivé à Christ. Il dit, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Dans l'Épître aux Romains et à Philémon aussi, il dit, il se nomme comme le prisonnier de Jésus-Christ. C'est intéressant de considérer ça. On pourrait évoquer la situation, que la situation de Paul est due à tout un tas de causes. La méchanceté des frères juifs, quand il était à Jérusalem. Sa mauvaise stratégie de défense. Peut-être qu'il n'aurait pas dû en demander à César, puisque peu de temps après, le roi dit, Agrippa dit, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas demandé à César. Donc on aurait pu dire, ah, bon, il a mal joué ce truc, hein. Il aurait été libre s'il n'avait pas demandé à voir César. Donc, certes, il y a tout un tas de causes instrumentales, d'accord, qui peuvent amener une situation ou une autre. Mais l'apôtre considère ici que tout ce qui lui est arrivé dépend vraiment du plan de Dieu et que Dieu utilise même tout ce qui lui est arrivé. Et pour la plupart des gens, ce sont les choses qui nous arrivent sont, comment dirais-je, les choses qui leur arrivent ont pour cause principale les mauvais choix qu'ils ont faits. Mais pour l'enfant de Dieu, ce qui lui arrive ne doit pas être considéré simplement comme des conséquences de ce que l'on a fait, je suis malade à conséquence de ça, je suis ceci à conséquence de là. Mais bien sûr, il y a des causes instrumentales, mais au-dessus de tout cela, il faut apprendre à voir vraiment que Dieu contrôle les choses et qu'il utilise ces choses d'une manière qui nous sera après profitable. Thomas Watson, qui était un puritain, dit ceci, il dit « Dans toutes les afflictions, il est réconfortant de savoir que Dieu y a sa main. » Dans toutes les afflictions, il est réconfortant de savoir que Dieu a sa main. Et Joseph, rappelez-vous de Joseph, hein, quand il retrouve ses frères, bien des années plus tard, avec tout ce qui s'était passé dans sa vie, il dit ceci, il dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, dans Genèse chapitre 45, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et puis il ajoute, « Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et quand on lit le texte, on dit, ben ouais, c'est eux, ils l'ont pris, ils l'ont mis là, ils l'ont vendu, etc. C'est à cause d'eux. Mais lui, avec toute la réflexion qu'il a eue après, tout ce qu'il a pu analyser, il peut dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc c'est une chose considérable à noter ici. Et puis Job dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Il dit, que le nom de l'Éternel soit béni. Et Augustin, saint Augustin disait, Job ne dit pas l'Éternel a donné, le diable a repris. Ou le diable a ôté. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Donc pour Paul ici, et pour nous aussi, nous devons considérer ce qui arrive, ce qui nous arrive, comme étant le résultat de la providence de Dieu. Alors bien sûr, ça peut être à cause de quelque chose que nous avons fait. Mais par-dessus tout, Dieu permet que ces choses arrivent parce qu'il gouverne toutes choses. Alors deuxième point que je voudrais souligner aussi, c'est que Dieu utilise les circonstances difficiles comme des opportunités au progrès de l'Évangile. Dieu utilise les circonstances difficiles vraiment comme des opportunités au progrès de l'Évangile. Si on nous demandait d'indiquer ce qu'il faut pour que l'Évangile se propage efficacement, on dirait il faut premièrement bien la liberté, il faut de la mobilité pour pouvoir aller où on veut et prêcher où on veut. Hein. Je suis chez la famille Christie, nous sommes chez la famille Christie, et ce matin, Edouard me disait qu'il y a quelqu'un qui veut venir pour être sur Bordeaux, pour prier pour Bordeaux. Hein? Il faut être mobile, se déplacer pour pouvoir être au lieu même et faire les choses. Hein? Et cette épître nous montre que pour que l'Évangile se propage, parfois il faut la captivité. Hein? Et Dieu a utilisé la captivité de Paul pour la propagation de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul dit, « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. L'Évangile a progressé par cette captivité. Paul ne dit pas que l'évangile a progressé malgré la captivité. Il ne dit pas que l'évangile a progressé en dépit de ce qui m'est arrivé. Mais il dit que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Ça a été des facteurs que Dieu utilise pour la propagation de l'évangile. Ici. Et donc, d'un point de vue humain, cette situation très difficile pourrait, on pourrait se dire qu'elle contribue plutôt au découragement et à l'arrêt de l'évangile. Mais en réalité, c'est le contraire qui s'est produit. Et donc, Paul montre ici que Dieu utilise les circonstances difficiles comme des tremplins, pour dire, comme des opportunités au progrès de l'évangile. Alors, Dieu utilise cela, les difficultés comme des opportunités au progrès de l'évangile, parce que, on pourrait voir peut-être deux ou trois choses ici, parce que les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans le chrétien. Les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans les chrétiens. Regardez au verset 13 ce que dit Paul. Il dit, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Ici. Et dans la version Darby, si on relit ce verset, il est traduit ainsi, « En sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ, dans tout le prétoire et à tous les autres. » Donc Paul dit que c'est devenu partout clair autour de lui que Christ est la cause de son emprisonnement. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc il y a un lien étroit qui est établi entre, à ce moment-là, entre Paul, sa situation, et Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la contrainte, on pourrait dire de l'emprisonnement ou de la détention, dans la douleur, dans la jalousie qu'il connaît, au chapitre 1, il parle de ceux qui agissent par jalousie, dans l'incertitude de sa situation, mais Paul a rendu témoignage à Christ. C'est ce qu'il a fait. Donc, lorsque Paul est en prison à Philippe, quand il était, rappelez-vous, dans la naissance même de l'église de Philippe, il a connu la prison, 10 ans plus tôt à peu près, eh bien, il était avec son compagnon Silas, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la prison, lorsqu'ils ont été emprisonnés? Ils ont chanté des cantiques. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Et ils savaient quelle était la cause, quel lien il y avait entre ces hommes-là et Jésus-Christ. Cette pression de l'emprisonnement a été une opportunité pour Paul et Silas de propager à travers le chant, à travers la louange dans leur cœur, eh bien, la parole de Dieu. Et c'est dans cette pression souvent que se révèle, je crois, plus clairement ce que nous sommes vraiment. Lorsque Satan, rappelez-vous, dans le livre de Job, vient voir Dieu, et puis Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, verset 8. Et puis Satan dit à Dieu, ici, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ?» Il est en train de dire quelque part, « Mais c'est normal que Job soit comme cela. Il n'a que des bonnes choses heureuses qui arrivent dans sa vie. » Ici. Et il ajoute, le diable ajoute, « Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dieu lui permet de le faire, n'est-ce pas? Et ce que le diable dit n'est pas dénué de sens hein, quand on regarde dans nos situations. Hein. Et c'est vrai que nous pouvons chanter « Amen, Alléluia » lorsque tout va bien. Et puis, quand les difficultés sont là, parfois, si on n'est pas suffisamment ancré en Christ, eh bien, on peut se décourager très, très vite, très, très, très vite. Et puis, partir dans nos pensées ou dans beaucoup de choses. Et même, comme je disais tout à l'heure, avoir une certaine révolte dans le cœur, ici. Eh bien, la Bible dit que dans tout cela, Job n'a pas péché des lèvres. Il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a béni, a ôté, pardon, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et donc, il y a beaucoup vraiment d'exhortations dans l'Écriture qui nous demandent de tenir ferme dans l'adversité. Il n'y a pas beaucoup qui disent de tenir ferme quand tout va bien. Hein? Mais j'ai trouvé beaucoup qui sont liés au fait de tenir ferme lorsque les difficultés sont là. Et par exemple, en 1 Pierre 2,18, l'apôtre Pierre dit, parle aux serviteurs et il leur dit ceci, il dit « Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et puis il ajoute « Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. » On peut voir ça sur le milieu du travail, hein. Quand on a un patron, des collègues, etc., des fois, c'est très, très difficile. Eh bien, il dit, ceux qui sont bons, il faut être soumis, mais particulièrement, dit-il, à ceux qui ont un caractère difficile. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Pierre fait-il cette précision? Et pourquoi dit-il qu'il faut être soumis avec le maître d'un caractère difficile? Mais je crois que c'est parce que c'est la situation qui va permettre de révéler plus clairement la réalité de l'Évangile dans notre vie. Quand vous mettez un incroyant avec un croyant dans une situation heureuse, il y a de fortes chances que les deux réactions soient les mêmes. Mais quand vous mettez le croyant et le non-croyant dans une situation particulièrement difficile, je crois que cela révèle plus celui qui est enfant de Dieu véritablement enraciné en lui aura une attitude qui va démontrer que Christ vit en lui. Et il pourra témoigner davantage de la grâce, de la confiance qu'il a en Christ, malgré cette situation difficile, de la dépendance qu'il a de Dieu, malgré cette situation difficile. Et donc, dans la situation désagréable, on pourrait dire, ou défavorable, la réaction n'est pas la même pour l'un ou pour l'autre. L'enfant de Dieu manifeste plus clairement l'appartenance à Christ. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans la vie du croyant. Deuxièmement, qu'on peut voir aussi que les circonstances difficiles permettent d'encourager plus efficacement les autres chrétiens. Regardez ce que Paul dit. Il dit « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Quel était l'objectif de l'ennemi? Probablement décourager. Et Paul et aussi les autres chrétiens ici. Mais Paul dit ici que ce qui est arrivé, c'est que non seulement l'évangile progresse, mais non seulement que tout le monde, le témoignage, son propre témoignage progresse, les gens savent pourquoi il est en prison, etc., mais aussi les autres croyants sont encouragés. Il dit par ses liens, c'est ce qu'il dit ici, hein, la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens. Alors, je ne crois pas que ce soit le fait d'avoir des liens qui constituent l'encouragement, sans qu'on n'aura qu'à se lier et puis tout le monde. Et non, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt l'attitude de Paul dans les liens. C'est ce qu'il veut souligner ici, son attitude face à cette épreuve par laquelle il passe. Il ne s'est pas tu, il n'a pas dit « bon, ce n'est pas la peine de parler parce que je suis en prison ». Il n'a pas craint pour sa vie. En Philippiens 1, il dit ici, « Christ est ma vie et la mort, mais un gain. » Au verset 21 du chapitre 1. Les chrétiens donc lui rendent visite. Les chrétiens voient sa joie, voient sa confiance, ses prières, sa détermination, ses projets d'écriture. Il écrit des épîtres. Et c'est un encouragement de voir quelqu'un dans une situation aussi difficile, après avoir passé par autant d'épreuves, être là dans une issue incertaine. Peut-être c'est la mort qu'il y a au bout du chemin, et avoir cette attitude, et ça encourage. Hein, ça encourage. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois vous allez visiter quelqu'un qui est à l'hôpital, un chrétien, un enfant de Dieu qui est à l'hôpital, et puis qui est vraiment dans une souffrance. Et puis vous arrivez, vous avez dit, bon, il faut qu'on aille l'encourager. Vous arrivez, et puis vous repartez de là, c'est cette personne qui vous a encouragé, parce que vous dites dans la situation où elle est, et je me rappelle, il y a une sœur qu'on a qui est décédée maintenant près du Seigneur, c'est l'année dernière qu'elle est partie, on l'a vue à l'hôpital, et quand on est allé la voir, quelques temps avant sa mort, on voyait bien qu'elle avait la tête qui ne correspond, qui partait vraiment, c'était pas toujours cohérent, Mais elle disait, chantez-moi ce cantique-là, chantez-moi ce cantique. Et elle chantait avec nous. Et puis je lisais, on a lu parfois un psaume. Elle connaissait, elle récitait à la suite. Et c'était extrêmement encourageant parce qu'on voyait comment son cœur voulait encore louer Dieu. Et même si sa tête était en train de partir un peu, elle se souvenait des bribes de l'écriture qu'elle pouvait réciter. Et on est parti avec ma femme, de là, on était vraiment encouragés. Et parfois, c'est des personnes qui sont dans des situations difficiles et qui manifestent une attitude tellement profonde dans le Seigneur qui encouragent d'autres qui sont plus valides, je pourrais dire, et qui pourraient se déplacer et faire des choses. On a eu une sœur qui s'appelait Dina, qui était handicapée dans notre église pendant... elle était en fauteuil roulant. Quand elle pouvait venir, elle était présente. Il y avait des rassemblements pour faire le ménage. Elle ne pouvait pas faire le ménage, elle ne pouvait pas sortir de sa chaise. Mais elle venait et disait, donnez-moi des cantiques, je vais les tamponner. Et elle était là et c'était un encouragement de voir que le peu de force qu'elle avait, elle l'utilisait pour être avec les frères et sœurs dans la communion et aider là où elle pouvait aider. Et voyez ce que Paul souligne ici, je crois que c'est... Il dit, la plupart des frères sont encouragés par la situation que je vis. Et c'est tellement par l'attitude qu'il a dans cette situation. Et donc, les circonstances... Il montre que les circonstances difficiles permettent d'encourager plus efficacement les autres croyants. Il ne faut pas forcément être dans des situations heureuses pour que les autres soient encouragés. C'est souvent dans notre manière de traverser la situation difficile qui devient un exemple pour les autres et qui les encourage. Et puis troisièmement, dernier point, je voudrais souligner cela. Donc, on a vu que l'apôtre Paul parle des circonstances difficiles que Dieu utilise pour montrer sa providence, des circonstances difficiles que Dieu utilise comme des opportunités au progrès de l'Évangile. Et puis enfin, je crois qu'il montre aussi que Dieu utilise les circonstances difficiles afin d'ancrer la joie du croyant dans l'Évangile et non dans les circonstances. Il utilise cela afin de montrer que les croyants doivent avoir leur joie ancrée dans l'Évangile et non dans les circonstances. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Je lis ça et j'ai l'impression que Paul est en train de dire, hé, mes frères, soyez dans la joie, l'Évangile progresse. L'Évangile progresse. Loin d'être un frein à l'Évangile, ce qui m'est arrivé a permis le progrès de l'Évangile. L'Évangile, c'est frayer, on pourrait dire ici, un chemin. Il ne veut pas que les Philippiens s'alarment sur son sort. Il veut que les Philippiens se réjouissent avec lui du fait que Dieu, à travers cette situation, permet la propagation de l'Évangile. Et ce qui rend nous, naturellement, les gens heureux, c'est quand leurs circonstances sont dites heureuses, la plupart du temps. Et donc, les gens vivent au rythme du climat. La météo, par exemple, c'est quelque chose qui on a notre morale qui fluctue comme la météo. C'est incroyable. Les gens vivent au rythme du travail, au rythme des amitiés qui se font, qui se défont. Et donc, le cœur de l'homme s'attache à ses circonstances et vit au rythme de ses circonstances. Mais Dieu, parfois, fait assombrir, je crois, les circonstances, afin d'attacher notre joie non pas aux circonstances, mais à une vraie valeur, afin que nous puissions trouver en Dieu même notre secours, afin que notre âme, comme on a lu tout à l'heure, notre âme se réjouisse, bénisse le Seigneur, afin que l'Évangile devienne une cause importante pour chacun de nous. Paul savait vivre, dit-il à la fin de l'épître, dans l'abondance. Il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la disette. Il dit, vous m'avez fait un don, amen, mais il dit ici, il vit dans le contentement. Il a appris, j'ai appris à vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance. Et puis ici, il a appris aussi à vivre dans la disette. Que Dieu lui donne, que Dieu ne lui donne pas, il a appris à exprimer sa joie en Jésus-Christ. Parce que je crois que sa foi était vraiment en Christ et son combat était pour l'Évangile, pas pour l'amélioration de ses circonstances, pas pour sa santé, mais vraiment pour que l'Évangile puisse progresser. Paul est motivé, chapitre 1, verset 18, par la cause de l'Évangile. Même lorsque les gens prêchent l'Évangile avec de mauvaises motivations, Il dit, si Christ est prêché, eh bien je me réjouis et je m'en réjouirai encore. Même si c'est, ils sont dirigés contre moi, ils veulent me faire du tort, si l'évangile est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc je voudrais dire ceci, chers frères et sœurs, en conclusion de ce passage, quelques points que je voudrais souligner, c'est que nous devons reconnaître dans les situations que nous vivons que Dieu est souverain sur la fin et sur les moyens. Dieu est souverain sur la fin et sur les moyens. Dieu avait dit à Paul qu'il faut qu'il rende témoignage de lui à Rome. En Actes 23, 11, il avait dit, « De même, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. » Mais s'il nous avait été donné d'écrire comment Paul arriverait à Rome et comment il partagerait l'évangile à Rome, nous aurions écrit un tout autre récit, je suis certain. On aurait écrit quelque chose de plus pompeux, je sais pas, au moins comme à Corinthe, il arrive, il prêche, et puis je sais pas. Mais pas, en tout cas, un Paul qui arrive après un naufrage, enchaîné avec un qui reste 2 ans en prison. On n'aurait pas écrit les choses comme cela. Et donc, on voit bien que Dieu choisit où il envoie Paul, mais il choisit comment il l'envoie aussi là-bas. Donc, il est à la fois souverain sur, on pourrait dire ici, la fin, ce qu'il veut faire, et sur les moyens qu'il utilise aussi pour le faire. Et nous avons besoin d'apprendre que toutes ces choses contribuent à la gloire de Dieu. Toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, sont sous son plein contrôle et c'est ce que Paul, je crois, veut faire parvenir comme bonne nouvelle à cette église. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que ce qui influencera le plus les autres autour de nous, ce ne sera pas notre érudition ou notre compétence dans un domaine, et même si ces choses sont importantes, ce sera notre attitude dans les situations particulièrement difficiles que nous traversons. Je crois que ce passage nous montre cela. Le témoignage de Christ surgit-il dans nos réactions face à la maladie ou à la perte d'un être cher? Ou est-ce que les sentiments de Christ apparaissent lorsque quelqu'un nous offense, comme Paul l'a été dans cette situation? Et donc ce qui a permis le progrès de l'évangile, ce n'est pas la captivité en elle-même, je crois, mais c'est l'attitude constante de Paul au sein de cette captivité. Il ne s'est pas plaint de sa situation, mais il a témoigné vraiment pour Christ. Et je lisais un commentaire d'un théologien qui s'appelle Don Carson. Il dit ceci, il dit, reconnaissez que les élèves n'apprennent pas toujours ce que vous leur enseignez. Je suis bien placé pour le savoir. Là aussi. Ils ne retiennent certainement pas tout ce que je leur enseigne. Il ajoute, qu'apprennent-ils? Il dit, ils apprennent ce qui m'enthousiasme, ils apprennent ce que je souligne, ce à quoi je reviens constamment, ils apprennent ce qui structure ma façon de penser. C'est intéressant de considérer cela. Parfois, on peut donner des messages avec notre bouche, beaucoup de messages, on dit des choses, et c'est ce qu'on veut transmettre comme enseignement. Mais par-dessus cela, ce que les gens observent le plus, c'est comment nous allons réagir dans les situations. Et comment, qu'est-ce qui va revenir à notre esprit en premier lieu dans les réactions que nous avons. C'est là qu'ils apprennent quelle est la réalité de l'évangile dans notre vie. Et cela, ils l'apprennent comme nos enfants qui, à la maison, apprennent plus facilement de ce que nous sommes que de ce que nous pouvons dire, parce qu'ils voient constamment comment nous vivons. Et nous transmettons quelque chose par notre attitude, beaucoup plus que par nos mots. Et c'est pour cela que je pense que Pierre dit, quand il parle aux anciens, dans la première épître de Pierre, il demande d'être des modèles du troupeau, c'est-à-dire d'agir en donnant aussi l'attitude qui convient dans les situations, en étant un exemple dans notre manière de parler, bien sûr, mais notre manière d'agir dans les différentes situations que nous traversons. Et puis, je voudrais souligner aussi, troisièmement, que l'inactivité physique n'est pas synonyme d'inactivité spirituelle. L'Évangile a progressé durant ces 2 années d'emprisonnement que Paul a connues dans la prison à Rome. Et beaucoup de choses, parfois, avancent spirituellement depuis un lit d'hôpital, hein, ou depuis une mère qui travaille, qui est au foyer avec ses enfants ici. Et l'épidémie qui a stoppé le monde, notre monde, juste encore maintenant, hein, le monde entier, eh bien, n'a pas stoppé, je crois, l'évangile, la propagation de l'évangile. Au contraire, hein, même les gouvernements, hein, commencé par notre ministre de l'Éducation nationale, hein, sont inquiets pour toutes ces personnes qui prêchent l'évangile sur les réseaux, hein. L'évangile n'est pas lié, dit Paul. Paul dit, moi, je suis en prison, à un moment donné, à Timothée, il dit, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et donc, faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de mobilité, parce que les choses sont stoppées, l'évangile s'arrête. Ce passage nous montre aussi que Dieu fait progresser à travers ce qui est apparemment arrêté, d'accord, l'évangile comme il souhaite le faire avancer. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, avant-dernier, c'est que la providence de Dieu doit nous influencer, influer notre manière de prier. Quand nous disons « je suis malade » par exemple à quelqu'un, « prie pour moi », ce que cela sous-entend la plupart du temps, c'est « prie pour ma guérison ». Je crois qu'inconsciemment, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas mauvais de le faire, je crois. Mais le chrétien doit viser plus haut, je crois, que ça. Il doit prier pour qu'il ait une bonne attitude dans cette situation difficile. Parce qu'il va enseigner les autres qui sont autour de lui, ou en tout cas, il va dire des choses dans sa réaction à cette situation difficile. Et Paul, quand il est en prison, il ne dit pas « priez pour moi pour que je sois délivré de la prison ». Et j'ai trouvé ce passage dans Éphésiens, il dit ceci, il dit « priez pour moi », Éphésiens 6, 19, « priez pour moi ». Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître plus hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, dans les liens, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Autrement dit, il est en train de dire, priez pour que je puisse avoir un bon témoignage dans cette situation. Il ne dit pas premièrement, priez pour que je sois délivré de la prison. Ce serait peut-être naturellement la première chose que nous demanderions. Mais lui, il dit, priez pour moi afin que j'agisse vis-à-vis de l'évangile comme je dois agir, que je saisisse cette occasion pour annoncer clairement l'évangile de Dieu. S'il plaît à Dieu de me délivrer, il le fera. Mais par-dessus tout cela, ce que je veux, c'est que l'évangile se propage et que j'ai une bonne attitude dans cette situation difficile. Et puis, dernier point, notre plus grand besoin, c'est Christ. Notre plus grand besoin, c'est Christ. Ce n'est pas que nos situations soient plus confortables, c'est que nous puissions vraiment connaître Christ. Quand on lit cette épître, on voit quelle proximité l'apôtre Paul avait avec Christ. Christ est sa vie, il dit, au chapitre 1, verset 21. Christ est son espérance, on lit cela au chapitre 3, verset 20. Christ est sa toute suffisance, au chapitre 4, quand il dit qu'il sait vivre dans l'abondance ou dans la disette. Vous voyez donc il avait une vie complètement centrée sur Christ. C'est ce qui lui permet de vivre de cette manière, d'être ce bon témoignage et de permettre la propagation de l'évangile autour de lui. C'est parce qu'il a placé vraiment sa confiance en Jésus-Christ. Il a d'abord donné sa vie à Christ et puis consacré aussi sa vie à Jésus-Christ afin que Christ puisse faire à travers lui ce qu'il veut. Donc notre plus grand besoin, c'est que Christ vive en nous, qu'on le connaisse pour notre salut, le pardon de notre péché. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à venir à lui. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos pour votre âme. Et si nous connaissons Jésus-Christ, que nous soyons encore davantage encouragés, comme l'apôtre Paul, à lui faire confiance, à avoir une juste vision sur les situations par lesquelles nous passons, qu'elles soient bonnes, et particulièrement quand elles sont aussi difficiles. Que nous puissions nous demander comment je peux, dans cette situation, honorer et glorifier mon Seigneur Jésus-Christ. Pour que mon attitude ne soit pas un obstacle à la propagation de l'Évangile, mais au contraire, un tremplin pour que l'Évangile progresse davantage. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide dans ces choses. Me prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cet exemple de ton serviteur Paul qui nous montre comment nous devons nous conduire dans les circonstances par lesquelles nous passons, Seigneur. Que ce soit la maladie, que ce soit l'absence de travail, que ce soit des difficultés autres. En tant que tes enfants, tu nous enseignes dans ta parole que nous devons avoir une attitude qui montre que nous croyons en toi, que nous te faisons confiance, que nous croyons que tu as ta main sur toutes choses et que les circonstances que nous traversons sont permises par toi, ordonnées par toi et que tu vas les utiliser, les faire coopérer pour répondre à notre bien. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à travers les situations que nous connaissons, être soumis à ta parole de manière à permettre que même dans ces situations, l'Évangile se propage. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Et merci parce que ces choses, tu nous permets de les vivre, non pas par nous-mêmes, par notre propre force, mais par ton esprit qui agit en nous. Seigneur, fais pénétrer ta parole au-dedans de nos cœurs et donne-nous des cœurs soumis pour obéir à ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen.